Vous êtes sur RTL.
18h. RTL dimanche soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h15, l'heure à laquelle vous referez le sport avec Isabelle Langer. À la une, 150 millions d'euros et un plan d'action immédiat pour faire face à la crise des services de pédiatrie débordés par l'épidémie de bronchiolite. Le gouvernement a donc voulu réagir vite après la lettre ouverte à Emmanuel Macron signée par 4000 soignants. Nous verrons donc ce qu'il y a dans ce plan d'action dévoilé en urgence. À la une également, les obsèques de Lola à Lillers, près de Béthune, demain, en début d'après-midi, en présence de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a été invité par la famille. La messe sera célébrée par l'évêque d'Arras. À retenir également de ce dimanche 23 novembre, un entretien téléphonique entre les ministres français et russes de la Défense. Sergueï Shoigu, qui a aussi appelé ses homologues turcs et britanniques dans la journée, leur a tous tenu le même discours, disant qu'ils soupçonnent l'Ukraine de vouloir utiliser une bombe sale, expression qui désigne une bombe conventionnelle disséminant des éléments radioactifs. Et cela au moment où la ville de Kherson continue de se vider de ses civils. Les envoyés spéciaux d'RTL sont dans la région. Ils ont traversé des villages repris aux Russes par l'armée ukrainienne et ils seront en ligne. Pour les prix de l'énergie impactés par cette guerre, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, invité du grand jury, est optimiste sur la capacité de l'Europe à plafonner les prix. Et pour cet hiver, il l'assure, les cuves de gaz sont pleines. Vous l'entendrez, on y reviendra largement après 18h30 dans le MacPol. La chasse sans alcool, comme la voiture, l'idée fait son chemin au gouvernement et peut-être aussi le dimanche après-midi sans chasse. Nous verrons quelles sont les pistes envisagées. Le football, une blessure inquiétante pour Raphaël Varane à moins d'un mois du premier match des Bleus. Les forfaits ou les points d'interrogation s'accumulent pour Didier Deschamps. En tout cas, c'était un après-midi de Ligue 1 aujourd'hui, la suite de la 12e journée. Victoire de Rennes à Angers 2-1. Match nul entre Troyes et Lorient 2-2, tout comme entre Toulouse et Strasbourg 2-2 également. Victoire de Reims face à Auxerre 2-1. De Brest à Clermont 3-1. Et puis depuis 17h, Nice affronte Nantes. On en est où, Mickaël Lefebvre ?
0-0 à la mi-temps. Vincent Pépé a touché le poteau pour Nice, tandis que Monsieur Le Texier n'a pas accordé de pénalty au Nantais après une double main d'un Niçois dans la surface.
Merci, à tout à l'heure. À 20h45, ce sera Lille-Monaco à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro et son équipe. En MotoGP, Quartararo, 3e ce matin en Malaisie, peut encore rêver du sacre. Tout se jouera lors du dernier Grand Prix dans 2 semaines. Le quintet de Longchamp. As, 7, 15, 12 et 10. Et puis le temps. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Alors, de gros orages attendus ce soir dans l'est du pays. 20 départements sont placés en vigilance orange.
Oui, ça va du Massif central à la Lorraine et à l'Alsace. D'ailleurs, ce sont surtout vers la Bourgogne et l'Alsace que ces orages sont les plus virulents en ce moment. Mais pas seulement, on a aussi de très gros orages. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de vigilance dans le Pas-de-Calais. Évidemment, tous ces orages vont quitter le pays progressivement. On aura quelques traces demain en région Rhône-Alpes ou encore dans le Jura. Le ciel sera souvent nuageux sur tout le flanc est. Alors qu'à l'arrière, on va retrouver des éclaircies pas trop vilaines avant l'arrivée de nouvelles pluies par l'ouest dans l'après-midi. Pluie ou pas, en tout cas, on va garder la douceur demain jusqu'à 29 degrés prévus en Corse dans l'après-midi. Comptez 19 degrés à Lille et Paris, 21 à Colmar, 22 à Lyon, 25 à Toulouse, 26 pour Marseille. Une grande douceur qui va persister jusqu'à la fin de la semaine. 20 à 22 degrés de moyenne pour la moitié nord, 25 pour la moitié sud avec un pic de chaleur attendu jeudi. 25 degrés de moyenne au nord, 27 degrés au sud et tout cela en plus avec du soleil.
Donc ça va durer.
Oui.
Merci Valérie.
RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
Alors c'est vrai hein, Valérie, que le soleil n'a pas brillé partout ce dimanche, mais à l'exception de la pointe bretonne, il a fait très doux pour un 23 octobre. Plus que doux, même on peut dire chaud à Bordeaux, Perpignan, Grenoble ou encore Marseille. 26 degrés sur les hauteurs dans les collines de Pagnol. De quoi tomber le t-shirt Hugo Hamelin.
C'est ça, en particulier pour les amateurs de trail dans les collines comme Alex et son papa Jean-François.
C'est très bien passé, on a eu très chaud. Les 23 octobre, on était torse nu. Je me plains pas, moi, je trouve ça plutôt agréable.
Vous voyez, j'arrive là, je suis complètement déshydraté, j'ai pas pris assez d'eau. Alors il fait 25-26, ouais, et la nuit ça descend pas en dessous de 20, donc ouais, on a vraiment l'impression encore d'être en plein été. Donc c'est quand même assez inhabituel, ouais, clairement, même pour la région. Ouais.
Déjeuner en terrasse, soirée en extérieur, l'été indien dure plus longtemps que prévu, et c'est inquiétant pour Patrice qui rentre de sa randonnée en vélo.
C'est pas normal. Ben ce temps, tout part en live. Oh, 21 degrés, on s'est baigné dimanche passé à Cassis, l'eau. 21 degrés. Mais bon, là, je pense qu'on va passer du chaud à un très froid. d'un coup comme ça.
Et ce ne sera pas pour cette semaine, puisque les maximales à Marseille ne devraient pas descendre en dessous des 25 degrés d'ici dimanche prochain.
Hugo Hamelin, une extrême douceur donc, puis les vacances de la Toussaint, résultat du monde sur les routes, alors que les conséquences de la grève des raffineries sont encore perceptibles, voire très nettes dans certains secteurs, malgré l'amélioration de la moyenne nationale. On reçoit ainsi de nombreux témoignages ici à RTL sur la difficulté à trouver de l'essence en région parisienne. Alors pas de problème pour le gasoil, mais sans plomb 95 et 98 quasiment introuvables. 9 jours après le calvaire de Lola, ses obsèques seront donc célébrées demain en début d'après-midi à Lillers, près de Béthune, ville dont la mère de Lola est originaire. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera présent, invité par la famille. Pour éviter toute récupération, les autres hommes politiques et élus sont priés de se faire discrets. La cérémonie sera célébrée par Monseigneur Olivier Leborgne, l'évêque d'Arras, et tout s'est mis en place dès aujourd'hui pour accueillir demain le mieux possible la famille de Lola, les proches, mais aussi hors de l'église, sans doute des milliers de personnes. Antoine Decarne.
Oui, les barrières de sécurité sont déjà installées autour de la collégiale de Lillers. Sur le parvis trônent quelques roses blanches. Au sol, il y a des bougies. Et à l'intérieur, les obsèques se préparent. Monseigneur Olivier Leborgne présidera les funérailles.
C'est les obsèques de Lola et on ne va pas voler les obsèques de Lola à sa famille. On a vraiment voulu servir ce qu'elle désirait. Ce sera un temps de prière très sobre. Il faut essayer de témoigner, pas seulement par les mots, mais aussi par les attitudes, par les gestes, par l'accueil des chrétiens qui seront là, d'une espérance. Que la mort n'a pas le dernier mot et que nous ne sommes pas condamnés à une logique de mort.
À la mi-journée, les services funéraires ont repéré les lieux dans cette église romane qui peut accueillir au maximum 500 personnes. Membre de la paroisse, Françoise a préparé la cérémonie.
Oh ben nous, on a préparé l'église comme il se doit, avec beaucoup de chaises. Ça va être certainement beaucoup de silence, hein, vous savez, dans le plus grand respect.
Et demain, des haut-parleurs retransmettront la cérémonie à l'extérieur sur le parking de l'église qui pourra accueillir 6000 personnes. Habitants de Lillers, Marine et Arnaud y seront.
C'est important de rendre hommage à une petite fille qui a souffert, que ça serait pas normal de pas y aller.
On sent bien que c'est une ville qui va être touchée grandement par cet événement.
Un événement qui doit se passer dans le plus grand respect de la famille qui a demandé de pouvoir se rendre ensuite au cimetière dans la plus grande intimité.
Antoine Decarne à Lillers pour RTL. Un drame cet après-midi dans le Morbihan à Etel, une voiture a fauché plusieurs piétons dans un secteur très fréquenté. Une personne est morte, 6 autres ont été blessés. Le conducteur a, semble-t-il, perdu le contrôle de son véhicule. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Face à la crise que traversent les urgences pédiatriques et 2 jours seulement après la lettre ouverte à Emmanuel Macron signée par 4000 soignants qui dénonçaient son inaction politique irresponsable, eh bien le gouvernement a donc réagi très vite en annonçant dès ce matin un plan d'action immédiat, une enveloppe de 150 millions d'euros. Alors Agathe Landais, à quoi va-t-elle servir ?
Eh bien cette enveloppe ira aux services les plus en tension. Selon l'entourage du ministre, elle servira en partie à revaloriser les gardes de nuit ou de week-end à l'hôpital. Le ministère nous confirme aussi que certaines mesures déployées cet été aux urgences vont être réactivées, à commencer par la régulation, c'est-à-dire demander aux Français d'appeler le 15 avant de se déplacer à l'hôpital. Un coup d'épée dans l'eau, estime le docteur Laurent Dupic, réanimateur à l'hôpital Necker à Paris.
Le problème n'est plus de réguler les choses, mais il est d'avoir des moyens à la hauteur de la situation dans laquelle des régions comme l'Île-de-France sont. Il a fallu cette nuit transférer encore 2 patients hors Île-de-France. Est-ce que 150 millions permettront de pouvoir à un moment donné régler ce type de problème ? Non.
Le gouvernement promet dès le printemps prochain des assises de la pédiatrie pour réfléchir à des solutions plus structurelles. En attendant, l'épidémie de bronchiolite ne fait que commencer. Les soignants sont très inquiets, mais François Braun l'assure, tous les enfants pourront bien être pris en charge.
Merci Agathe Landais, il est 18h09. On marque une courte pause sur RTL et dans un instant, on retrouve les envoyés spéciaux d'RTL en Ukraine.
RTL dimanche là. RTL dimanche soir avec Vincent Parisot.
C'est assez rare depuis le début de la guerre il y a 8 mois pour être souligné. Le ministre russe de la Défense s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec son homologue français Sébastien Lecornu. Il l'a fait aussi avec ses homologues turcs et britanniques. Et à chaque fois, le discours a été le même, à savoir une condamnation de l'attitude ukrainienne accusée d'une tendance à une escalade incontrôlable. Moscou soupçonne Kiev de vouloir utiliser une bombe sale sur son propre territoire pour en faire porter la responsabilité à la Russie. Bombe sale, c'est l'expression qui désigne une bombe conventionnelle qui va disséminer des éléments radioactifs. Alors évidemment, face à ces menaces, menace à peine voilée. Tout le monde pense à Kherson, vidé de sa population civile sous la pression russe. Kherson que pourraient reprendre les forces ukrainiennes dans le cadre de leur grande contre-offensive qui a déjà permis de libérer de nombreux territoires. Et justement, on est en ligne avec Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale d'RTL, avec Jonathan Griveaux et ces villages reconquis par les Ukrainiens. Émilie, vous les avez vus, vous y êtes passée.
Oui, nous sommes allés à Mykolaïvka, un village installé sur les bords du fleuve Dniepr. Ici, les Russes sont partis sans combattre quand ils ont entendu les Ukrainiens arriver. C'était il y a 3 semaines. Depuis, le village reprend vie peu à peu, difficilement. Cette femme a vécu presque totalement terrée chez elle pendant 7 mois.
C'était très dur. On prenait chaque jour l'un après l'autre. On ne savait pas de quoi demain serait fait. On était dans l'incertitude, on ne savait pas ce qui allait se passer, ce qu'on allait devenir.
Les Russes ont imposé leurs règles, leur monnaie, ils terrorisaient les habitants. Des témoins parlent de plusieurs Ukrainiens du village arrêtés par les Russes et toujours pas revenus. Depuis sa libération, le village n'a plus de courant ni d'eau potable, conséquence directe des combats aux alentours. Les habitants hésitent encore à sortir dehors. Il y a 10 jours, un obus tiré depuis l'autre côté du fleuve par les Russes a détruit entièrement l'école du village.
Émilie Beaujard, l'envoyée spéciale d'RTL en Ukraine avec Jonathan Griveaux, que l'on va retrouver évidemment régulièrement dans nos prochains rendez-vous d'information et notamment dès demain dans la matinale d'RTL. Plus de 2 mois après son agression au couteau lors d'une conférence aux États-Unis, on n'en sait plus aujourd'hui sur l'état de santé de Salman Rushdie. Son agent a donné quelques précisions à El País, quotidien espagnol. Il affirme notamment que l'écrivain, auteur des versets sataniques, a aujourd'hui perdu l'usage d'un œil et d'une main. Il souffre également d'une quinzaine d'autres blessures au torse et au cou. Je vous rappelle que son agresseur, qui avait plaidé non coupable devant un tribunal américain, est incarcéré sans possibilité de libération sous caution. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, était à la mi-journée l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et bien sûr, il a été question des prix de l'énergie et de l'accord trouvé entre les Européens pour une feuille de route qui pourrait aboutir à des mesures, à des mécanismes dans quelques semaines pour limiter les prix. Sur le papier, donc, pour l'instant, rien n'est acquis, mais Thierry Breton s'est montré plutôt optimiste.
Il fallait absolument nous découpler de la dépendance du gaz russe. Personne ne pensait qu'on saurait le faire. En 4 mois, on l'a fait. On était à 40%, on n'était plus maintenant qu'à 7%, il reste encore 2 ou 3 pays. Pardon, mais il a fallu remplacer en quelques mois 155 milliards de mètres cubes de gaz russe par autre chose. On pourra donc passer l'hiver, c'était la priorité. La deuxième priorité maintenant, c'est le prix. Donc maintenant qu'on est sûr que nos cuves sont pleines, comme jamais elles l'ont été, à plus de 92%. Maintenant donc, c'est le moment et c'est le temps de travailler ensemble pour éviter cette hyperinflation, il faut appeler un chat, qu'il y a eu sur les prix du gaz. Alors la réponse c'est oui, nous saurons faire. Croyez-moi, je vous le dis aujourd'hui, on le fera. Ça va être difficile, mais on est déterminé.
Voilà, on le fera. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, au grand jury RTL de Figaro LCI ce midi, mais on y reviendra largement tout à l'heure, après 18h30, dans le MacPol. Un taux d'alcoolémie pour les chasseurs, comme ça existe pour les automobilistes. L'idée fait son chemin, semble-t-il, au gouvernement. La secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, sera mardi dans la Marne. Elle assistera notamment à une formation au permis de chasse et elle devrait, à cette occasion, en dire plus. Cela dit, Simon Marseille, on sait déjà quelles sont les pistes envisagées.
La première, instaurer un délit d'alcoolémie. Oui, exactement comme pour le code de la route, pas plus de 2 verres lors d'une chasse, ce qui représente 1 demi-gramme d'alcool par litre de sang, mesure qui s'appliquera aussi sur les terrains privés, le tout contrôlé par la police de l'environnement. Autre piste envisagée pour les chasses collectives, réduire l'angle de tir en face du chasseur. L'idée, eh bien, c'est d'éviter de blesser les autres tireurs postés sur les côtés. L'exécutif souhaite aussi renforcer la signalisation des battues avec davantage de panneaux, voire même des applications numériques. Dernier point et sans doute le plus explosif, il est toujours question d'interdire la chasse le dimanche, mais attention, seulement l'après-midi. Autant de mesures qui seront officialisé dès mardi par Bérangère Couillard, madame chasse du gouvernement, à l'occasion de ce déplacement dans la Marne.
Et qui feront sans doute beaucoup parler et réagir d'ici là. Merci Simon Marseille. Et puis un choc et un mystère pour un retraité de Magri dans l'Aude. Le choc, c'était jeudi matin pour lui, au réveil, lorsqu'il s'est aperçu que 13 de ses arbres, des pêchers et des plaques miniers qui donnent des kakis, n'étaient plus là, ou plutôt qu'ils étaient là, mais en morceaux, après avoir été tronçonnés. Le mystère, c'est bien sûr la raison de cet acte sans explication rationnelle pour l'instant, Valentin Larquier.
Dans son verger, Pierre Sens, un jardinier passionné, plante depuis des années des arbres du monde entier. Jeudi, il découvre que 13 d'entre eux sont par terre.
Il a tronçonné la moitié du tronc et ensuite, en poussant,
l'arbre a basculé. Le type qui a fait ça a voulu me blesser pour une raison que je ne comprends pas.
Le tronçonneur s'est attaqué à des pêchers et à des plaques minières du Japon.
Il savait que ces plaques minières étaient pour moi le fruit peut-être qui représentait le mieux mon verger. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un du village.
Parmi les 500 habitants de Magri, certains ne sont pas surpris par un tel acte. Des querelles personnelles, politiques, vieilles comme le monde, créent des tensions, comme l'explique Jacques.
Dans ce village, c'est comme dans tous les petits villages. Tous les gens se connaissent parce qu'ils sont là depuis des générations déjà. Ils ont plein d'histoires entre eux qui datent de 40, 50 ans. Lui, il a fait ça, lui, il possède ça. Il y a des envieux, il y a des jaloux. Et ça s'appelle de la vengeance, donc c'est jamais une bonne méthode.
Qui a coupé les arbres de Pierre Sens ? Mystère à Magri. Très touché, le retraité a porté plainte.
Merci beaucoup, Valentin Larquier. On marque une courte pause dans un instant. Le sport avec Quartararo a encore un infime espoir. Et puis tout le foot, la Ligue 1 et le coup dur pour Varane. A tout de suite.
Vincent Parisot. RTL Dimanche Soir. RTL Dimanche Soir avec Vincent Parisot.
Et on ouvre la page sport avec, une fois n'est pas coutume, tiens, la moto GP. Car Fabio Quartararo, le français champion du monde en titre, n'a pas dit son dernier mot. Il a fini troisième du Grand Prix de Malaisie, remporté par Francesco Bagnaia, le grand favori qui est en tête du classement. Mais voilà, l'Italien Frédéric Veil n'est pas encore titré.
Oui, avec cette nouvelle victoire, sa septième cette saison, Pecco Bagnaia relègue désormais Fabio Quartararo à 23 points. Cela veut dire que mathématiquement, le français a encore une chance infime de conserver son titre. Pour cela, il faudra qu'il l'emporte à Valence dans 15 jours et que Pecco Bagnaia termine au-delà de la 15e place. Autrement dit, et compte tenu de la forme actuelle de l'Italien, cela paraît peu probable, mais Fabio jouera le coup à fond. C'est ce qu'il a confié à nos confrères de Canal+, à l'issue de ce Grand Prix de Malaisie.
Je suis content, j'ai tout donné. L'objectif, c'était d'essayer de repousser le titre de Pecco. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est pratiquement impossible de le faire, mais voilà, rien n'est impossible et on y croit jusqu'à la fin.
Alors, nouvelle couronne pour le français ou premier sacre pour Pecco Bagnaia? La réponse dans 15 jours en Espagne où le Grand Prix s'annonce chaud, très chaud.
Oh, mais la chaleur, ça ne vous fait pas peur, Frédéric Veil. Évidemment, Frédéric, qui nous fera vivre donc dans 2 semaines cet ultime Grand Prix. Allez, le football avec tout d'abord la 12e journée de Ligue 1 avec plusieurs rencontres qui ont eu lieu cet après-midi. Rennes est allé gagner à Angers 2-1. Victoire de Reims face à Auxerre 2-1. De Brest à Clermont 3-1. Et puis 2 matchs nuls, 2 buts partout entre Troyes et Lorient et entre Toulouse et Strasbourg. Et puis il y a un match en cours. C'est depuis 17h Nice qui affronte Nantes. Alors comment ça se passe, Michael Lefebvre ?
Eh bien, ce sont les Nantais, Vincent, qui mènent dorénavant 1-0 dans cette rencontre. Un but inscrit par l'ancien Niçois Ignatius Ganago à la 49e minute de cette rencontre. Un centre côté gauche de Moses Simon sur un contre éclair. Et c'est Ganago qui vient crucifier Kasper Schmeichel. Juste avant cela, eh bien, les Aiglons ont eu une occasion par l'intermédiaire de Barclay. Mais parade d'Albon Lafont sur le tir de l'international anglais en première période. Nice a touché le poteau par l'intermédiaire de BP. Je vous le disais, monsieur Le Texier n'a pas accordé de pénalty pour les Nantais en première mi-temps. Après une double main dans la surface de réparation de Viti, d'abord le bras gauche puis le bras droit, mais l'arbitre a estimé que ce n'était pas intentionnel et qu'il ne fallait pas siffler pénalty sur ce coup-là. Donc il reste un peu plus d'une demi-heure à jouer dans cette rencontre et c'est Nantes qui mène 1-0 face à Nice.
Merci Michael Lefebvre. De toute façon, on fera un point à la fin du match à 19h avec vous. Et puis ce soir 20h45, dernière rencontre de cette 12e journée, Lille-Monaco à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute son équipe. En tout cas, pas de blessés ce week-end en Ligue 1 pour l'instant chez les internationaux. En revanche, hier, lors du match Chelsea-Manchester United, Raphaël Varane est sorti blessé à la cuisse. Et ça, évidemment, c'est très inquiétant à moins d'un mois désormais du premier match des Bleus à la Coupe du Monde, Baptiste Durieux.
Absolument, Vincent. On parle d'une indisponibilité qui est aussi entre 3 et 4 semaines. C'est une lésion à la cuisse droite au niveau des ischio-jambiers. Alors oui, c'est moins grave que prévu. L'IRM passé aujourd'hui n'acte pas le forfait du défenseur français. Mais en tout état de cause, si Raphaël Varane est sélectionné, il ne sera pas en pleine possession de ses moyens avec une forte probabilité de ne pas être prêt pour le premier match des Bleus au Mondial face à l'Australie le 22 novembre.
Oui, d'autant rappelons Baptiste quand même, avant d'évoquer les autres cas, que Didier Deschamps a dit qu'il ne convoquerait pas des joueurs qui sont à 100%, qui ne sont pas à 100%. Pardon.
Exactement, c'est la condition sine qua non. Il faut que les joueurs soient prêts, soient aptes physiquement, et donc des joueurs qui sont en cours de guérison ou quoi, ils ne seront pas sélectionnés pour la Coupe du Monde, c'est extrêmement clair.
Alors, il y a Varane, oui, mais il y a les autres.
Absolument. Alors, pour les forfaits qui sont actés, N'Golo Kanté, évidemment, milieu de terrain de Chelsea, qui était tellement important en 2018. Le gardien de but, Mike Maignan, aussi, là, c'est Maignan, a dit qu'il reviendrait en 2023. Donc, a priori, évidemment, forfait pour la Coupe du Monde, mais on attend l'officialisation. Grosse incertitude toujours concernant Paul Pogba, qui a été opéré du ménisque. Même Karim Benzema, tiens, alors, c'est beaucoup moins grave, mais symboliquement parlant, l'indestructible Karim Benzema était absent ce week-end pour fatigue musculaire, le ballon d'or français. Donc aujourd'hui, en fait, il est impossible de s'avancer sur les noms des 23 joueurs qui partiront au Qatar. Et puis pour terminer, on rappelle d'ailleurs que lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, au mois de septembre, 14 joueurs avaient déclaré forfait.
Bon, bah, y en a un qui doit bien se gratter la tête en ce moment, c'est Didier Deschamps.
On pense à lui.
Bon,
et
voilà.
À Guy Stéphan.
Évidemment, on pense à eux. Merci beaucoup, Baptiste Durieux. Et puis le ski, puisque la saison est lancée. Et j'ai l'impression qu'elle commence comme c'est terminé celle de l'hiver dernier pour le vainqueur du gros globe de cristal 2022, le Suisse Marco Odermatt. Il rayonne et il s'est imposé dans le premier géant de la saison à Zolden en Autriche. Tiens, le ski, on va en parler tout à l'heure dans On refait le sport, parce que Isabelle Langer va recevoir Clément Noël, notre champion olympique de slalom. Et puis c'est pas tout, parce qu'également au programme d'On refait le sport avec Isabelle Langer, les vedettes de patinage artistique, le couple Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, vous connaissez l'heure, le rendez-vous 19h15. On va marquer une courte pause et puis se préparer à ouvrir le MacPol dans un instant. Ensuite, je vous le rappelle, dans 20 minutes, votre rendez-vous du dimanche soir avec Alain Bougrain-Dubourg qui refait la planète. À tout de suite.
RTL dimanche soir. Dans un... RTL dimanche soir. Le MacPol avec Vincent Parisot.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction d'RTL, tous les dimanches soirs à 18h30, avec au cœur de l'actu politique de ce dimanche, Nicolas Sarkozy, le retour. L'ancien président, dans un entretien au JDD, souhaite qu'Emmanuel Macron franchisse le Rubicon et passe un accord avec la droite républicaine. On va donc revenir sur cette longue interview, dans un contexte particulier évidemment, entre 49.3 et motion de censure. On va vous dire ce qui devrait se passer demain à l'Assemblée, mais aussi s'interroger, peut-on gouverner ainsi à coup de 49.3? L'exercice va-t-il atteindre ses limites? Des majorités peuvent-elles se dessiner selon les textes? On posera la question à Maud Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, et porte-parole justement de ces députés à l'Assemblée, porte-parole de Renaissance, avec également dans ce MacPol le grand jury du commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, et le premier semestre de Macron 2, désormais un peu isolé le président sur la scène européenne.
Vincent Parisot, le MacPol sur RTL.
5 pages, tous les sujets de l'actualité sont évoqués dans cette interview fleuve de Nicolas Sarkozy dans le journal du dimanche ce matin. Alors certes, aujourd'hui, l'ancien président pèse plus lourd dans la mémoire des Français, peut-être parfois dans leur cœur, que sur la scène politique, mais c'est un événement. Il n'avait pas parlé politique depuis 2016. On en parle avec les intervieweurs du grand jury, Olivier Bost d'RTL, bonsoir.
Bonsoir.
Adrien Jeune pour TF1 LCI, bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume Roquette du Figaro également.
Bonsoir Vincent.
Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr.
Bonsoir.
De cette interview, on retient surtout l'appel du pied à Emmanuel Macron pour, je cite, hein, qu'il franchisse le Rubicon et passe une alliance, un accord avec la droite républicaine, les LR, hein, les Républicains, Olivier Bost.
Bah, il avait déjà tenté cette opération au moment de l'élection présidentielle. Très clairement, il voulait un accord avec Emmanuel Macron pour une gouvernance. Ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, quelque part, ça donne un peu le sentiment qu'il veut, entre guillemets, rebrader sa famille politique qu'il n'a pas soutenue à l'élection présidentielle, ce qui est donc une position quand même assez originale. Et moi, ça me pose une question quand même. Je ne comprends pas bien en fait le moment où il fait ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a un problème. Effectivement, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il est obligé de dégainer le 49-3 sur les questions de budget, mais il n'a pas empêché pour aujourd'hui de gouverner la France. Et donc, il n'est pas dans une position extrêmement difficile, Emmanuel Macron. Et donc, je ne comprends pas pourquoi Nicolas Sarkozy relance cet appel à ce moment-là.
Et est-ce que cet appel risque d'être entendu, Adrien Gendron, républicain?
Alors, je pense que la réponse est purement et simplement non. Donc, Nicolas Sarkozy fait un appel qui n'a aucune chance d'aboutir. Aujourd'hui, est-ce qu'il a une chance d'aboutir d'ici quelques mois, d'ici un an, si le gouvernement, sorti de la période budgétaire, se fait retoquer tous ses projets de loi? Ça peut se regarder. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on sera en train de se rapprocher des élections européennes qu'on lui en 2024. Est-ce que les Républicains auront vraiment intérêt à être la force d'appoint ? Ils peuvent aussi être tentés, et ce serait compréhensible, de faire le pari de renaître de leurs cendres. Certes, les Républicains aujourd'hui sont à terre, mais s'ils veulent continuer d'exister, va bien falloir qu'ils affirment leur identité.
Guillaume Roquet.
Ouais, je pense qu'il y a, deux choses qui peuvent expliquer cette position de Nicolas Sarkozy. D'abord, peut-être le fait que il aimerait bien être un peu le dernier de sa famille politique. Vous savez, c'est toujours difficile quand vous avez quitté le pouvoir de dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à reconquérir l'Élysée alors que lui a été battu. Et puis, la seconde raison, je pense qu'elle est plus idéologique, c'est qu'ils se sont assez proches d'Emmanuel Macron. En fait, Nicolas Sarkozy, au fond, c'est quelqu'un d'assez consensuel. Et donc, en même temps, je pense que ça lui convient peut-être mieux que la droitisation qui s'annonce chez les Républicains avec les prochaines échéances. Et donc, avec à la fois cette question d'amour propre et cette question de sensibilité politique, ben, il se dit finalement, Macron, c'est pas si mal.
Même s'il pointe lui-même les limites du en même temps dans l'interview et qu'il pousse un peu Emmanuel Macron sur la question des retraites, par exemple.
Mais c'est aussi, ça donne aussi un côté un peu décalé à cette interview, c'est-à-dire que l'ancien président qui demande au président actuel d'avoir du courage, bon alors c'est typiquement français, hein, c'est quand même assez, assez décalé en fait.
Marie-Pierre Haddad ?
Bah, clairement Nicolas Sarkozy finit le travail avec les Républicains, sauf qu'il ne s'est pas forcément rendu compte que sa famille politique, elle a déjà tourné la page, mais c'est une façon pour lui de montrer qu'il a un peu toujours ce droit de vie, droit de mort sur les Républicains. Je décide si vous êtes une force d'opposition ou si vous êtes un allié de la majorité. Donc voilà, il veut en fait continuer à court-circuiter LR.
Merci à vous quatre. On vous retrouve tout à l'heure hein, pour revenir sur le grand jury de Thierry Breton. Maud Bréjon, la porte-parole des députés Renaissance, va pouvoir réagir dans un instant à cette main tendue de Nicolas Sarkozy qui rappelle dans cette interview qu'Emmanuel Macron est comme un chasseur sans beaucoup de munitions. Parce que rappelons-le, le 49-3, c'est seulement pour les textes budgétaires et sinon une fois par session parlementaire. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Et justement, ce soir, on est entre 49-3 et motion de censure.
Bah oui, le 49-3, Elisabeth Borne l'a utilisé à deux reprises la semaine dernière sur le budget et aussi sur le financement de la sécurité sociale. On dit souvent dégainer le 49-3. Oui. Cet article de la Constitution, c'est l'arme fatale d'un gouvernement chahuté au Parlement. Ça lui permet de faire adopter un texte de loi sans passer par un vote. Mais l'opposition a un recours, déposer une motion de censure, c'est ce qu'elle a logiquement fait. La NUPES en a déposé deux pour le budget et la sécurité sociale. Le RN, une seule à ce stade sur le budget. Ils seront débattus demain. Le but affiché, renverser le gouvernement, sauf que ça n'arrivera pas. La gauche ne votera pas la motion de censure du RN et vice-versa. Quant aux députés LR, ils n'en voteront aucune.
Voilà, donc pas de suspense. Hein. Elle ne sera pas adoptée, cette motion de censure. N'empêche, hein, le gouvernement ne pourra dégainer ce 49-3 qu'une seule fois dans cette session, donc d'ici la fin du mois de juin. Et on se demande du coup, d'ici là, comment il va gouverner ?
Bah, d'abord, il va devoir choisir sur quel texte il a recours au 49-3. Mais après, il faut bien continuer à faire voter des lois. Elisabeth Borne veut dialoguer avec l'opposition, aller chercher des majorités de projets sur chaque texte, essayer de convaincre une partie de l'opposition de la soutenir. Une fois la droite pour les retraites, par exemple, une fois les écologistes sur les énergies renouvelables. Il ne l'exclut pas, d'ailleurs. Mais pour que ça fonctionne, l'exécutif doit accepter de véritables compromis. Elisabeth Borne affirme le vouloir, sauf avec le RN ou les Insoumis, mais sans convaincre l'opposition jusqu'ici. Et puis Emmanuel Macron a-t-il la même vision des compromis que sa première ministre ? Et puis avec une majorité composite, bah le risque, c'est aussi d'en perdre une partie en route. Autre possibilité dans ce cas, une alliance avec LR, on en a parlé, comme Nicolas Sarkozy le conseille à Emmanuel Macron, avec un premier ministre de droite et un gouvernement très largement remanié. Bah à ce stade, on a du mal à l'imaginer, on l'a vu. Enfin reste la dissolution de l'Assemblée, de nouvelles élections, c'est l'ultime solution, car rien ne garantit qu'elle apporterait une majorité absolue au président.
Oui, il y a des exemples dans le passé comme ça, hein, où on a voulu dissoudre et ça ne s'est pas passé comme prévu après. Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Invité du MacPol, Maud Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors merci d'être avec nous dans ce MacPol. Pour nous éclairer hein, sur ce que la majorité présidentielle, malgré sa majorité relative, entend faire pour gouverner à l'Assemblée. En attendant, on vient d'en parler, le résultat de la motion de censure de demain, et dans ce contexte que l'on connaît maintenant, puisque en dehors des lois budgétaires, un seul recours au 49-3 par session parlementaire. Du coup, on se demande si vraiment vous allez pouvoir gouverner avec le 49-3, à coup de 49-3.
Et on compte absolument pas gouverner à coup de 49-3 et on l'a largement démontré. On a passé un certain nombre de projets de loi sur le sanitaire, sur l'assurance chômage, sur le pouvoir d'achat. On a réussi à construire des majorités d'objectifs, des majorités de projets. Et on continuera avec cette main tendue dans les semaines et les mois à venir sur les questions de sécurité, sur les questions d'écologie. Et j'espère que chacun prendra ses responsabilités.
Vous voulez dire que des majorités vont se dessiner selon les textes. Il y a un projet de loi sur la sécurité intérieure aussi, par exemple. Vous espérez quelle majorité ?
C'est des majorités de bon sens. La question de la sécurité, c'est pas une question de gauche ou c'est pas une question de droite. Les gens qui pâtissent de l'insécurité sont souvent ceux qui vivent dans les quartiers les plus précaires, les plus défavorisés. Et donc, la gauche, si tant est qu'elle se perçoive comme une gauche de gouvernement, devrait être très attentive à ces sujets-là. C'est idem pour la question de l'écologie. La lutte contre le changement climatique, c'est pas l'apanage de la gauche française. Ça doit aujourd'hui aussi concerner les Républicains. Et donc, on travaillera avec l'ensemble des forces constructives qui ont envie de faire avancer le pays.
Ouais, vous avez dit notre main sera toujours tendue. Mais alors pourquoi ne pas saisir celle que vous tend Nicolas Sarkozy ce matin dans le journal du dimanche en parlant d'un accord en bonne et due forme avec la droite républicaine, ce qui donnerait, c'est vrai, j'imagine, un peu de stabilité à cette majorité.
Le président de la République a largement tendu la main lorsqu'il a été élu et lorsqu'ont eu lieu les élections législatives. Il a proposé à plusieurs reprises aux partis de gouvernement, aux forces républicaines, d'arriver à trouver un accord global. Force est de constater qu'aujourd'hui, dans leur rang, il y a 50 nuances de LR. Certains avec qui on peut travailler, certains qui ne le souhaitent pas, et donc on continuera à avancer avec ceux, celles et ceux qui partagent des petits dénominateurs communs avec nous sur la question de l'Europe, sur la question de la lutte pour l'égalité des chances, pour le climat, pour le pouvoir d'achat. Et donc, encore une fois, on est dans cette démarche de majorité d'objectifs avec toutes les forces qui ont envie de nous suivre. Le fait est que je constate qu'aujourd'hui, que le PS notamment s'est fait largement dissoudre au sein de la NUPES et donc ça les éloigne des valeurs et de l'objectif des projets qui sont les nôtres, malheureusement.
Merci Maud Brigeon, merci d'être intervenue ce soir sur RTL.
Merci à vous.
Et dans un instant, le grand jury de Thierry Breton et puis Emmanuel Macron, 6 mois après son élection, à la recherche d'amis européens de Rome à Berlin.
Le MacPol, Vincent Paris. RTL dimanche soir. Le MacPol avec Vincent Parisot.
Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, était donc à la mi-journée l'invité du grand jury RTL, Le Figaro et LCI. Et dans le contexte que vous connaissez, celui de la guerre, il a bien sûr été question des prix de l'énergie et de l'accord trouvé entre les Européens pour une feuille de route qui aboutirait à des mesures et à des mécanismes dans quelques semaines pour limiter ces prix.
Il fallait absolument nous découpler de la dépendance du gaz russe. En 4 mois, on l'a fait. On pourra donc passer l'hiver, c'était la priorité.
L'Allemagne a beaucoup ému en annonçant un plan de 200 milliards. Est-ce que vous dites, l'Allemagne là est en train de, au sein de l'Europe, créer une concurrence déloyale, ou au contraire, elle a raison parce que c'est son intérêt ?
Eh bien, je dirais les deux. L'Allemagne a raison de se préoccuper des entreprises qui sont sur son territoire, mais il est impératif de le faire en coordination. Il y a effectivement cette demande qui a été formulée à la Commission de faire ses propositions pour maintenir cette égalité de traitement.
Mais
et c'est peut-être ce qui manquait, effectivement.
Un peu d'égoïsme de l'Allemagne.
L'Allemagne vit une situation absolument inédite de son histoire. Elle dépendait quasiment intégralement du gaz russe. Et bien voilà qu'en quelques mois, tout ça s'effondre. Donc il faut accompagner ce pays dans cette transformation.
Vincent Parisot, le MacPol sur RTL.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. On y revient donc avec ses intervieweurs, Olivier Bosse pour RTL, Adrien Jeanne pour TF1 et LCI, Guillaume Roquette Le Figaro et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Est-ce qu'on peut dire qu'il a rassuré sur les capacités de l'Europe à faire face à la crise liée à la guerre en Ukraine et notamment sur la question des prix de l'énergie, Olivier ?
Moi, je trouve qu'il n'a pas minoré toutes les crises qui touchent l'Europe aujourd'hui, qu'il n'a pas minoré non plus les problèmes relationnels entre l'Allemagne et la France. En revanche, je l'ai trouvé très optimiste, que ce soit sur les questions d'énergie, que ce soit sur les questions des relations commerciales avec la Chine, avec les États-Unis également. Thierry Breton, c'est un peu le commissaire européen qui a toujours la solution à tout. Là, quand on lui demandait ce qui allait se passer et quelles étaient ses solutions, j'ai trouvé que par moments, c'était assez imprécis.
Adrien ?
Je crois que c'est lié au fait aussi que Thierry Breton se dit « La balle, désormais, est dans le camp de la Commission européenne ». Ça tombe bien, c'est la Commission européenne, dont il est membre, qu'on a demandé de trouver un certain nombre de solutions. Donc c'est parfait pour lui. Laissez-nous travailler, on va pouvoir avancer. Ça va lui permettre aussi de montrer qu'il a, comme vous le disiez Olivier, des idées, qu'il peut peser, qu'il peut faire aboutir les choses. Après, je pense en effet qu'il a accordé un peu trop d'importance au Conseil européen qui a eu lieu cette semaine entre les chefs d'État et le gouvernement, comme si, grâce à ce Conseil, toute la suite était réglée. Je ne crois pas du tout. Et je crois que par ailleurs, il y a encore beaucoup de problèmes qui vont se poser aux 27 Européens.
Il est quand même rassuré. Il est quand même rassuré. Je vais vous donner la parole, Guillaume Roquette, en disant que pour cet hiver, on est bien, quoi. Il a dit, en gros,
oui, c'est vrai.
On va passer l'hiver.
C'est vrai. Et ça, c'est un argument qui est relativement convaincant. Il dit les cuves de gaz sont pleines. Voilà. Et on y est arrivé. Et c'est vrai que c'est en ça que je pense qu'il faut écouter son discours. Il y a une part de wishful thinking, comme on dit en bon français. Mais en même temps, il dit, regardez, on nous avait dit que on allait manquer de gaz cet hiver. Or, nos cuves sont pleines. Il avait dit, l'Europe n'arrivera pas à se mettre d'accord pour faire un énorme emprunt pour financer les conséquences du Covid. Et la reprise économique, et on y est arrivé. L'Europe, c'est toujours comme ça. Au début, ça commence par les portes qui claquent, et puis à la fin, on arrive à un consensus. Bon, c'est un peu la force de Thierry Breton, c'est qu'il est plutôt d'un naturel optimiste.
Il y a une phrase, une formule qui revient assez régulièrement dans ce grand jury de Thierry Breton, c'est « Nous ne sommes pas naïfs ». Autrement dit, l'Europe n'est pas naïve. Sous-entendu, elle l'a sans doute été par le passé.
En fait, c'est presque nous ne sommes plus naïfs sur la Chine, c'est assez frappant, parce qu'il nous explique qu'on ne vendrait pas aujourd'hui le port du Pirée en Grèce aux Chinois. Bon, cela dit, moi, je ne l'ai pas trouvé très convaincant sur ce point-là, parce que nous expliquer en même temps, il faut être ferme avec la Chine, il ne faut pas se laisser avoir, mais les laisser monter au capital d'une société en charge des conteneurs au port d'Hambourg, ce n'est pas un problème. On a précisément le sentiment qu'il ne voit justement pas le problème que ça pourrait être demain. Donc on est peut-être plus naïf, mais disons qu'il en reste quand même encore un peu quelque chose.
Marie-Pierre Haddad.
Et on voit que la petite musique sur le « nous ne sommes pas naïfs » n'est pas arrivée jusqu'aux oreilles des internautes qui, eux, continuent à faire en gros la même rengaine, à dire que l'Europe ne peut rien quand ça ne va pas et que ça ne fonctionne pas. C'est de la faute de l'Europe et au contraire que quand tout va bien, là c'est le gouvernement qui a plutôt bien agi. Il y a toujours un peu cette logique-là et surtout les internautes ont trouvé Thierry Breton quand même très déconnecté de la réalité concernant le pouvoir d'achat et l'énergie.
Merci à vous quatre. Merci d'avoir débriefé ce grand jury de Thierry Breton. Mais Marie-Pierre, vous restez évidemment avec nous pour l'agenda dans quelques minutes. En attendant, on prend la direction de l'Italie, plus précisément de Rome. Retrouvez en direct notre envoyé spécial Thomas Després. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Alors vous suivez sur place la visite d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui sera reçu demain avec son épouse par le pape François. Troisième rencontre d'ailleurs, faut le signaler au passage, depuis son élection. En revanche, il y a un grand flou qui règne toujours ce soir autour d'une éventuelle rencontre avec Giorgia Meloni qui a été investie hier, présidente du Conseil italien.
Oui, officiellement, aucune rencontre entre les deux homologues n'est prévue à ce stade, répète l'entourage du président qu'on a encore interrogé il y a quelques minutes, même si certains médias italiens ici évoquent une entrevue qui pourrait avoir lieu ce soir dans un hôtel de la capitale, sans aucune confirmation pour l'heure. Mais pour être très clair, Emmanuel Macron traîne clairement les pieds pour ne pas être le premier dirigeant à s'afficher à ses côtés. Écoutez ce qu'il nous répondait vendredi lorsqu'on lui a posé la question.
L'habitude, c'est que quand on se déplace pour un voyage au Vatican, c'est d'abord et avant tout un voyage au Vatican. Je tiens à respecter les usages vis-à-vis du pape et je tiens aussi à pouvoir m'entretenir avec le président Mattarella et pouvoir faire ce qui est le plus utile tout en étant respectueux.
Un usage qui ne l'avait pourtant pas empêché de rencontrer les deux anciens présidents du Conseil lors de ses dernières visites au pape. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron déjeunera demain midi avec le président italien Sergio Mattarella. Un entretien assurément plus symbolique que politique.
Et bien évidemment, de toute façon, vous nous tiendrez informés sur RTL. On a quand même l'impression, Thomas, qu'Emmanuel Macron traverse aujourd'hui, et 6 mois après sa réélection, une passe assez difficile sur la scène internationale, que ce soit avec l'Espagne, avec le Royaume-Uni et même maintenant avec notre allié historique, l'Allemagne.
Oui, vous savez Vincent, la vie d'un couple, c'est pas un fleuve tranquille. Et avec les Allemands, on est en plein dans ce qu'on appelle une période compliquée, une zone de turbulence. Alors, qu'est-ce que les deux voisins se reprochent? Eh bien, les sujets sont assez nombreux, en fait. D'abord, sur la question militaire, la France, qui a toujours plaidé ces dernières années pour une défense européenne commune, voit d'un mauvais œil le rapprochement entre Berlin et Washington, qui ont signé un contrat pour la livraison de matériel militaire. Ensuite, il y a la question économique. Avec la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron plaide pour un plafonnement des prix de l'électricité au niveau européen. Refus catégorique d'Olaf Scholz. Résultat, le très symbolique Conseil des ministres franco-allemands, qui a lieu tous les ans, qui était prévu cette semaine en grande pompe, a été reporté. À la place, le chancelier allemand sera simplement reçu à l'Elysée pour une réunion de travail, loin des dorures du château de Fontainebleau.
Oui, c'est vrai qu'on a connu des périodes un peu plus chaleureuses hein, entre la France et l'Allemagne. Merci beaucoup Thomas Després, envoyé spécial et donc en direct ce soir de Rome. On termine, comme tous les Macpol, avec vous Marie-Pierre Haddad pour l'agenda de la semaine, à commencer par celui du président.
La semaine va être particulièrement chargée pour Emmanuel Macron. Lundi, c'est l'examen des motions de censure de la NUPES et du RN à l'Assemblée, vous venez d'en parler. Mais hasard du calendrier, lundi, ça fera aussi 6 mois, jour pour jour, qu'Emmanuel Macron a été réélu président. 6 premiers mois marqués par la crise du pouvoir d'achat, par celle de l'énergie, mais aussi sur un plan un peu plus politique, par une fragmentation de la majorité autour du président. François Bayrou veut à tout prix marquer sa différence. Et Édouard Philippe, lui, continue sur sa ligne de la loyauté, mais loyal surtout envers lui-même. Mercredi, 2 gros temps forts dont on va parler. Emmanuel Macron reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz. Ils vont tenter de fixer rapidement une nouvelle date pour le Conseil des ministres franco-allemand. Deuxième événement, à 20h30, Emmanuel Macron est l'invité de l'émission politique de France 2, l'événement. Il s'était déjà exprimé sur les questions internationales et là, il revient pour évoquer cette fois-ci la politique intérieure. Jeudi, un nouvel appel à la grève est lancé par la CGT. Le syndicat a 3 revendications, hausse du SMIC, indexation des salaires sur l'inflation et revalorisation du point d'indice des fonctionnaires.
Merci Marie-Pierre. Et ajoutons, dimanche 18h30, un nouveau Macpol, votre rendez-vous politique sur RTL. Celui-ci s'achève ainsi et dans un instant, Alain Bourin-Dubourg refait la planète.
RTL. On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
On refait la planète comme chaque dimanche soir. On est sur RTL avec Alain Bougrain-Dubourg pour la refaire, cette planète. Bonsoir Alain.
Bonsoir Vincent.
Et chaque semaine, on débute l'émission avec un son de la nature qu'on va essayer de découvrir grâce à un indice notamment.
Il doit son nom au prince Albert de Saxe.
Écoutons-le. A priori, c'est un de vos amis, les oiseaux.
Oui, ça je confirme.
Je parle au grand patron de la LPO et il nous en dira plus tout à l'heure à la fin de l'émission.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, je suis content ce soir parce qu'on va parler à la fois de défense de l'environnement, de journalisme et de jeunesse. 75% des jeunes de 16 à 25 ans jugent aujourd'hui le futur effrayant. Et l'association Terragir, qui a été créée il y a plus de 30 ans, a donc lancé le programme Jeunes Reporters pour l'environnement. Dites-nous de quoi il s'agit.
Eh bien, l'idée, Vincent, c'est de proposer à des jeunes de réaliser des reportages sur des solutions positives portant sur le développement durable. Alors, jusqu'à présent, c'est assez considérable. Près de 5000 jeunes reporters ont tenté l'aventure et 3 millions de personnes ont été touchées par ces reportages. Et parmi les thèmes, l'un d'entre eux sur les filets fantômes, suivi par Florent Josset de Terragir.
Les jeunes sont allés vraiment sur le terrain, interviewer des spécialistes, des associations aussi qui récupèrent ces filets en tentant de préserver en fait, les coraux qui auraient pu être empêtrés dans les filets, mais on peut avoir des sujets assez variés qui ont le plus souvent un angle environnemental et qui vont porter sur un ou plusieurs des objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis par l'ONU.
Ah ben voilà, justement j'allais vous poser la question, c'est quels sont ces objectifs de développement durable ?
Eh bien l'ONU en a défini 17 qui vont de la lutte contre la pauvreté à la qualité de l'eau, en passant par l'énergie propre ou la santé évidemment, c'est dire qu'il y a le choix.
Alors quelle est la démarche vraiment de Terragir, c'est aider à la formation des futurs journalistes spécialisés dans l'environnement ?
Non, pas forcément. Il s'agit plutôt d'éclairer le jeune qui veut s'investir, comme le précise Florent Josset.
Finalement, l'idée, c'est pas forcément d'en faire un futur journaliste, mais plutôt de lui montrer qu'il a le droit à une information de qualité, lui montrer aussi comment fonctionnent les médias, comment on crée une démarche argumentative, comment on fait des recherches. Et finalement, c'est le meilleur moyen aussi pour leur donner le goût à l'information.
Voilà, futur journaliste, parce que c'est une initiation, bien sûr, mais au-delà de ça, j'ai envie de savoir si ce concours, Jeune Reporter pour l'environnement, est un peu intéressé, je veux dire, est-ce qu'il permet de gagner des prix ?
Bon, c'est pas l'objectif, mais ouais. Les meilleurs sont effectivement récompensés.
Selon les catégories, ils peuvent gagner des prix financiers qui vont là leur permettre en fait de soit continuer à se professionnaliser, c'est-à-dire faire de nouveaux reportages sur un autre sujet, ou en achetant éventuellement du matériel pour l'établissement scolaire lorsque c'est toute une école qui s'engage, ou à titre personnel.
Voilà, donc pour les amateurs, sachez que vous avez jusqu'au 15 mars pour déposer un reportage, voire plusieurs, et évidemment, vous allez sur le site de Jeunes Reporters pour l'environnement.
On refait la planète sur RTL.
Alors Alain, on va revenir sur ces idées reçues qu'on va chasser régulièrement dans cette émission. C'est la seule chasse que vous pratiquez, je le précise. Et là, vous souhaitez dénoncer ce soir une idée reçue de la capacité des plantes à dépolluer un appartement.
Effectivement, parce qu'à l'extérieur, certains arbres sont incontestablement des purificateurs naturels. Par exemple, les bouleaux sont connus pour leurs feuilles duveteuses qui captent les particules en suspension. Il y a les saules, les aulnes, les ormes ou les chênes qui sont également célèbres par leur capacité à purifier l'air des villes, mais il en va tout autrement pour les plantes d'appartement.
Oui, mais justement, on dit que certaines de ces plantes peuvent assainir l'air intérieur.
Oui, l'ADEME a même recensé une quarantaine de plantes dites dépolluantes vendues dans les jardineries, mais elle estime que ce qualificatif n'est pas validé scientifiquement. Conclusion, Vincent, avec un nombre de plantes, disons, normales dans une pièce, eh ben, l'épuration de l'air est quasi nul.
Bon, alors on fait quoi pour purifier notre air à l'intérieur, faute de plantes, Alain ?
Comme d'habitude, limiter les sources de pollution, comme les chauffe-eau, les chaudières, les produits chimiques ménagers, etc. Puis on aère.
Voilà, on ouvre les fenêtres. Alain, comme chaque semaine, un événement à ne pas manquer.
Oui, je vous encourage à faire escale à Montpellier pour visiter le salon Ad Natura, autrement dit le salon des professionnels de l'écologie et de la biodiversité. À travers une multitude de stands, de débats, de conférences, etc., les professionnels vont s'exprimer, mais ce salon est également ouvert à tous, et notamment aux étudiants qui peuvent trouver des pistes d'avenir. Ce salon ouvrira mardi prochain jusqu'à samedi soir. Une précision, Vincent, il est gratuit et sans inscription.
Très important.
On refait la planète sur RTL.
Allez, on conclut Alain l'émission avec notre son mystérieux de la nature. Vous nous aviez donné un indice.
Il doit son nom au prince Albert de Saxe.
Alors, écoutons-le. Oh, alors, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui tient son nom au prince Albert de Saxe.
Un oiseau ravissant, magnifique. Ouais. C'est le paradisier qui est localisé dans les forêts, on va dire, montagneuses, en Nouvelle-Guinée. Alors, je vous invite à aller voir sur Internet. Il a des plumes, vous allez voir, qui partent des oreilles et qui peuvent atteindre deux fois sa taille. Ouais. C'est très étrange. Ce qu'on entend, c'est un chant nuptial, mais le mâle peut imiter d'autres espèces qui ne simplifient pas les choses.
Ah, le mâle paradisier est un imitateur. Et un petit coquin, si je comprends bien. Merci. Merci Alain. À dimanche.
À dimanche.
On refait la planète sur RTL.
Et il va être 19h, hein, dans quelques secondes. On marque une courte pause et on attend Antoine Cavaliero pour le journal. A tout de suite.
RTL dimanche soir.
RTL. 19h.
RTL dimanche soir. Avec Vincent Parizeau.
Et donc Antoine Cavaliero pour ce journal. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
À la une, ce drame à Etel dans le Morbihan.
Cet après-midi, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a fauché 7 piétons. Un homme est décédé, 6 personnes blessées. Les habitants sont sous le choc. Dans l'actualité également, le mondial de l'auto qui referme ses portes. Son patron est invité dans ce journal. Un nouveau chef-d'œuvre aspergé de nourriture. Cette fois, c'est un tableau de Monet recouvert par de la purée. Des militants écologistes sont à l'origine de cette action. Coup de poing. On va y revenir. Le foot, c'est terminé à Nice. Mickaël Lefebvre, les Nantais qui s'imposent.
Et non, pas tout à fait, Antoine, puisque dans toute fin d'arrêt de jeu, eh bien, les Nantais ont concédé un pénalty très discutable et Pépé vient d'égaliser pour les Niçois sur ce pénalty. Les Nantais sont fous furieux parce qu'en première période également, ils auraient pu bénéficier d'un pénalty pour deux mains dans la surface de réparation d'ailleurs. Donc dans quelques secondes, la fin de cette rencontre, mais le score est de 1 but partout entre Nice et Nantes. Ganago avait ouvert le score. pour les Nantais.
Mickaël Lefebvre, et puis c'est parti pour la saison de ski.
Oui, et d'ailleurs, ça tombe très bien parce qu'on va parler poudreuse, slalom, mais aussi patinage dans On refait le sport, chère Isabelle Langer.
Oui, les champions olympiques sont à l'honneur. On recevra Clément Noël, le champion olympique de slalom, qui parlera notamment des dégâts du réchauffement climatique sur les montagnes, et puis le couple en or du patinage, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron.
Ça, c'est du plateau. Merci Isabelle, à tout à l'heure, 19h15.
RTL dimanche soir.
Les mois à Etel, cet après-midi, une voiture a fauché plusieurs piétons selon la mairie de cette ville touristique du Morbihan. Une personne a perdu la vie, 6 ont été blessés. Nicolas Bobby, vous êtes sur place pour RTL. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule.
Il y avait beaucoup de monde cet après-midi, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. La voiture folle a fauché 7 piétons, un homme de 86 ans est décédé. Etel, ancien portonnier, est sous le choc.
Ah oui, oui, ça choque. Il y avait les camions de pompiers qui étaient là, la police, et on a vu une personne allongée par terre qui était recouverte.
Il y avait un monsieur qui vendait ses légumes là, des petites pommes et les produits de son jardin.
Lui, il est décédé.
Ici, le 30 km/h est de rigueur. Le maire Guy Herson a pu s'entretenir avec le conducteur âgé de 82 ans.
Le monsieur m'a dit qu'il avait eu une espèce de malaise. Et puis après, il ne se souvient plus bien. Il a arraché 4 poteaux de protection du trottoir et renversé plusieurs personnes qui étaient le long de la criée d'Etel.
Alors, le vieil homme qui n'était pas alcoolisé a-t-il accéléré au moment de son malaise? En ce moment placé en garde à vue, il répond aux questions des gendarmes.
Nicolas Bobby, correspondant RTL dans l'Ouest, merci à vous.
Dans l'actualité également, il y a ces services de pédiatrie qui sont saturés. Et donc aujourd'hui, la réponse du gouvernement qui est tombée.
Une enveloppe de 150 millions d'euros pour tous les services en tension. Les plans blancs vont également être activés pour permettre aux hôpitaux de faire revenir des soignants. Des annonces faites ce dimanche par le ministre de la Santé, François Braun. Elles font suite à cette tribune signée par 4000 soignants qui dénonçaient les conditions d'accueil dans les urgences pédiatriques débordées par la virulence de l'épidémie de bronchiolite.
Emmanuel Macron est à Rome et il a prononcé un discours sur la guerre en Ukraine.
Et cette phrase, une paix est possible quand les Ukrainiens le décideront. Pour lui, le soutien occidental à Kiev se fait pour qu'à un moment, le peuple ukrainien puisse choisir la paix. Sur le terrain, les Russes continuent de bombarder les installations électriques ukrainiennes. Des coupures de courant ont touché la capitale Kiev ce dimanche.
RTL dimanche soir.
Alors vous l'avez vécu toute la semaine sur RTL, il s'agit du mondial de l'auto à Paris qui s'achève, c'est ça?
Qui vient de refermer ses portes et nous sommes en ligne avec son directeur. Bonsoir Serge Gachot.
Oui, bonsoir.
Alors ce matin sur RTL, vous annonciez 400 000 visiteurs en une semaine. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ce soir?
Oui, alors on sera très près. Je n'ai pas le chiffre final. Là, j'ai couru un peu à droite, à gauche. Mais en tout cas, voilà, le salon vient à peine de fermer ses portes. Notre objectif, c'était d'être au-dessus de 350 000. Donc on sera autour de 400, très proche. Mais je n'ai pas encore le chiffre final.
Est-ce que le salon de l'auto, et finalement ce serait presque un comble, a été victime de la pénurie de carburant? Est-ce que ça a pu jouer un peu en votre défaveur?
Alors non, je dirais, on n'a pas eu un seul exposant qui n'a pas pu venir. Donc ça, c'est une bonne chose. En revanche, je pense que ça a dû avoir une influence parce que pendant les éditions précédentes, on était toujours autour de 62% de personnes en dehors d'Île-de-France. Mmh. Et là, on est à 60% de franciliens. Voilà. Donc je pense que ça a dû jouer un rôle pour les visiteurs, mais en tout cas pas pour les exposants.
Serge Gachot, la tendance cette année, ça a été la voiture électrique. On en a beaucoup parlé. Est-ce que le public a été conquis ?
Oui, c'est fou. Oui, oui. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On avait des essais. Il y en a eu à peu près 3000 d'effectués. Et 24% de ceux qui ont essayé des voitures, pour eux, c'était une première expérience de véhicule électrique. Je pensais que ce serait un peu plus élevé que ça. Et 99% ont été convaincus de l'expérience électrique. Mmh. Donc ça, c'est assez incroyable. Mais on avait aussi de l'hydrogène. Et c'est intéressant. Il y a eu des commandes. Il y a deux nouveaux constructeurs français de voitures à hydrogène qui ont tous les deux eu beaucoup de précommandes avec des acomptes. Donc ça, c'est bien. Et puis on avait aussi des véhicules utilitaires légers à hydrogène. Et puis, on avait aussi un vrai focus sur l'accessibilité. On n'arrivera pas à faire la transition énergétique si le plus grand nombre ne peut pas accéder, les classes moyennes, moyennes inférieures, à la voiture électrifiée.
On parle évidemment beaucoup de voitures électriques, de sobriété énergétique. Est-ce que les gros bolides rutilants font toujours rêver et est-ce que les belles voitures font toujours autant rêver en 2022?
Oui, complètement, et ça c'est important, et on en avait. L'ADN du mondial de l'auto, c'est vraiment de la vitrine d'une industrie très innovante, de la mobilité de demain, enfin demain dans un avenir proche. Pas encore les voitures volantes, mais c'est aussi la fête de l'automobile, donner à voir, faire le show. Donc on avait de très belles voitures, et il faut faire rêver, c'est un salon populaire, c'était un grand succès populaire, et on est ravis d'avoir eu ces voitures, même si nous deux ont été un peu abîmés hier soir, mais ça n'a pas duré longtemps.
Donc là c'est fini pour cette édition 2022, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que tout le monde rentre chez soi, ou est-ce qu'il y a une tradition, il y a une petite fête qui s'organise sur place?
Oui, alors là, on doit quand même accélérer le démontage, en fait. C'est pour ça qu'on vient de fermer. Voilà, on est resté quand même ouvert tous les soirs jusqu'à 22h30. Mais là, ce soir, c'est 19h et ponctuel, parce que les uns et les autres commencent à démonter. On entend des bruits de moteur, voilà. Mais il y aura quand même aussi un peu de musique chez les uns et les autres.
Parce que souvent, et en général, on fait un peu cracher les moteurs.
Mais en tout cas, on pense à l'édition suivante. Là, on avait fait plus court, mais avec des horaires larges. Et pour vraiment ce qu'on a comme demande des exposants, notamment Renault qui nous en a parlé, c'est d'inclure un deuxième week-end pour la prochaine édition en 2024.
Voilà, qui aura lieu dans 2 ans, puisque c'est tous les 2 ans désormais. Merci beaucoup Serge Gassot, patron du Mondial de l'Auto. Merci d'avoir été l'invité du journal de 19h. On marque une courte, toute petite pause dans RTL Dimanche Soir. À tout de suite.
RTL Dimanche Soir. RTL Dimanche Soir avec Vincent Parisot.
Et pour le journal Antoine Cavaliero, Antoine, si vous aviez aimé il y a 10 jours les tournesols de Van Gogh à la soupe de tomates, vous allez adorer les meules de Monet à la purée.
Je suis une catastrophe.
La scène s'est déroulée cet après-midi dans un musée de Potsdam en Allemagne, comme à Londres. Il s'agit d'une action d'activistes. Ils disent avoir peur car, je cite, les scientifiques nous expliquent que nous ne pourrons pas nourrir nos familles après 2050. Selon la télévision publique allemande, l'œuvre n'a pas été endommagée. Précision qui a son importance.
Allez, on passe au sport. Au foot, vous nous rappelez tout d'abord les résultats de Ligue 1.
Un but partout donc entre Nice et Nantes. 2-2 entre Troyes et Lorient. Même score entre Toulouse et Strasbourg. Reims bat Auxerre 2-1. Brest est allé gagner 3-1 à Clermont ce soir. Lille-Monaco, c'est en direct commenté dans RTL Foot. La météo, bonsoir Valérie Quintin. Les orages sévissent donc ce soir dans l'Est. 20 départements en vigilance orange.
Bonsoir Antoine. Oui, il va falloir être vigilant ce soir du Massif central jusqu'au nord-est et aux Alpes. Alors la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace seront particulièrement concernés dans les prochaines heures. Mais il pleut aussi bien sûr entre l'Auvergne et les Alpes du Nord. Un temps plutôt humide qui va persister demain, même si les pluies se limiteront à la région Rhône-Alpes et à la Franche-Comté. Une large moitié ouest devrait profiter de belles éclaircies juste avant la venue de nouvelles pluies par la Bretagne et par la Vendée. En seconde partie de journée, les températures malgré tout vont rester douces, comprises entre 11 et 19 degrés demain matin et de 17 à 28 au plus chaud de l'après-midi, de Brest à Ajaccio.
Merci Valérie Quintin.
Et merci à vous Antoine Cavaliero. À tout...